Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. On le sait, la solitude est plus dure quand les fêtes brillent de mille feux en famille ou entre amis. La solitude de subie, plus précisément, qui souligne cruellement son isolement. Pourquoi et comment la solitude devient-elle chronique? Pourquoi certains ne parviennent pas à s'extraire de cette situation? Pourquoi la solitude est-elle mal vue par nos sociétés? Pourquoi fait-elle peur? Nous verrons également ce qu'est le sentiment de solitude, même quand on est entouré. Ce matin, nous vous aidons à mieux vivre cette période de l'année quand on est seul. Autour de la table, l'écrivain et réalisateur Jean-Louis Fournier, le psychiatre Gérard Macron et nos camarades Guimet Odissino et Christila Pelédouel qui vous délivreront quelques conseils fictionnels pour mieux affronter la solitude des fêtes. Ce matin, entraidez-vous sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Si vous êtes seul pendant les fêtes, n'hésitez pas à échanger. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Jean-Louis Fournier.
Bonjour monsieur.
Vous êtes écrivain et réalisateur et vous venez de publier chez Jean-Claude Lattès « Je ne suis pas seul à être seul ». Bonjour Gérard Macron.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre et vous avez publié en poche chez Odile Jacob, Psychologie de la solitude. Bonjour Guimet Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama. Bonjour Christila Pelédouel.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine. Alors, selon une étude du Crédoc, pour la Fondation de France, en 2016, un Français sur dix est en situation objective d'isolement. Ces Français ne rencontrent et ne passent du temps avec d'autres personnes que très rarement, quels que soient les réseaux de sociabilité. La famille, les amis, la vie associative et professionnelle. Gérard Macron, ce matin, nous évoquons ceux qui subissent leur solitude et qui en souffrent. Ce n'est pas forcément évidemment la même chose quand la solitude est choisie.
Oui, tout à fait. En revanche, je vais peut-être définir déjà la différence qu'il y a entre isolement social et puis être seul, par exemple. Il y a des célibataires qui sont seuls, ils ne sont pas en couple, qui pourtant sont très heureux, ils ont choisi finalement de vivre ainsi. Et puis il y en a qui sont isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas de contacts sociaux, pas de téléphone, personne qui puisse voir dans la journée, dans la semaine. Et là, on voit qu'il y a une réelle souffrance, effectivement.
La solitude est un terme flou où se cachent des réalités très diverses.
Tout à fait. C'est qu'on mélange en fait en même temps l'isolement social et le fait que les personnes souffrent du sentiment de solitude et le fait d'être seul. C'est trois choses distinctes. Et on peut aussi avoir des personnes, par exemple, qui sont en couple, en famille et qui souffrent pourtant de solitude. C'est plutôt une solitude émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à établir des liens relationnels de bonne qualité, des liens intimes. Et si bien, ils ont souvent des angoisses d'abandon, ils ont le sentiment d'une insatisfaction permanente, alors qu'ils sont entourés.
Jean-Louis Fournier, en France, nous n'avons qu'un seul mot pour parler de solitude. Les Anglais ont deux mots.
Deux mots. C'est intéressant, d'ailleurs, on a loneliness, qui est la solitude qui n'a pas été choisie, et solitude, qui est la grande solitude choisie, la solitude des moines, la solitude des créateurs, qui est quelque chose d'assez étonnant aussi, parce que, si vous voulez, moi, quand j'ai écrit un livre, je voulais pas faire un truc trop plombant, en disant, en me lamentant, et mettre du violoncelle sur les gens seuls, c'est que la multitude, c'est quelquefois pire que la solitude.
Jean-Louis Fournier, vous êtes un solitaire ambivalent. Cette solitude, vous ne l'avez pas choisie depuis que votre femme Sylvie est morte il y a une dizaine d'années. Elle est à la fois cruellement vécue et absolument nécessaire, cette solitude.
Oui, je pense qu'il y a les deux dans la solitude. C'est vrai que, si vous voulez, quand vous vous ennuyez, là, c'est un moment, je raconte une histoire où j'étais aux mains d'une fille qui me faisait un cours sur Mondrian. Je suis pas Claire. Absolument fanatique de Mondrian. Et ça durait, je sais pas, mais, 2 heures, on va parler de Mondrian. Et je devenais fou. Et à un moment, elle m'a dit, je crois que je vais devoir partir. Là, j'ai senti, j'étais un prisonnier qu'on libérait. Tout d'un coup, j'allais retrouver la griserie d'être seul, de ne pas faire semblant de m'intéresser à des choses qui ne m'intéressaient pas, de sourire, de devoir rigoler à des mots d'humour un peu foireux, de faire semblant de m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas du tout.
En exergue de votre livre, cette phrase de Roland Barthes, « Je n'ai pas envie de solitude, j'en ai besoin ».
Oui, ça, je trouve ça formidable. En même temps, moi, je vous retournerai l'autre chose, c'est que, j'ai pas envie des autres, mais j'ai besoin des autres, malgré tout.
Constat terrible au début de votre livre, vous écrivez « J'en ai marre d'être seul, de plus en plus vieux, de plus en plus moche ».
Oui, c'est vrai, oui, ça, c'est pas... C'est pas, c'est vrai. Hein.
Et je vous cite...
Si j'avais su, je serais pas vieux.
Je vous cite « Personne ne me fait des compliments ». Ne dit « tu es bien coiffé », personne ne me dit « tes nouvelles lunettes te vont bien », personne n'essaye de me plaire.
Oui, ça c'est un gros problème ça. ça c'est sûr. C'est vrai qu'on a toujours besoin du regard, on a besoin du regard des autres, sinon on n'est pas sûr d'exister. Moi j'ai besoin que les gens me regardent et m'écoutent, sinon je me dis peut-être qu'on m'entend pas, que je suis... Et si vous voulez, j'ai surtout besoin, en écrivant des livres, d'avoir des gens qui aient le courage de tourner les pages pour les lire.
Gérard Macron, elle est intéressante, l'ambivalence de la solitude décrite là par Jean-Louis Fournier.
Oui, en fait, l'idée c'est que être seul pour être seul n'apporte pas grand-chose. Et en même temps, être avec les personnes juste pour être avec quelqu'un n'apporte rien non plus. L'idée, c'est dans les deux cas, c'est de trouver quelque chose dans lequel on est en lien avec soi et en lien avec l'autre. Donc quand on est seul, on va essayer de trouver un moment où on va découvrir un peu qui on est à l'intérieur de soi, faire des expériences, soit la lecture, vaut mieux lire seul qu'avec du bruit autour, préféré. Hein. Peindre, lire, il y a plein de choses, jouer à l'instrument de musique, ou finalement seul, on s'occupe, on est heureux, mais en même temps, souvent c'est pas suffisant, parce qu'on existe aussi à travers la relation avec l'autre. Donc on a aussi besoin de relations. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont seules, quand elles en souffrent, elles sont parfois capables d'aller avec des personnes qui leur conviennent pas, pour ne pas rester seules. Et donc, il y a une double souffrance. Avec les autres, il y a la satisfaction. Et seules, elles sont pas bien avec elles-mêmes.
Nul ne peut faire l'économie de la solitude. C'est une expérience incontournable. Et pour la majorité d'entre nous, c'est une sensation désagréable dont on souhaite s'échapper.
Oui, tout à fait. En fait, fondamentalement, on est seul. Donc l'idée, c'est comment apprendre, et on ne nous a pas appris malheureusement, comment apprendre à être en paix avec soi-même. Et comme on ne l'a pas appris, parce qu'on ne nous a pas appris notre éducation à être en paix avec nos émotions, dès qu'on a des émotions un peu désagréables, il y a des pensées qui arrivent, qui nous conduisent à imaginer des choses fausses sur nous. De si je suis seul, ça veut dire qu'on ne m'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas important, je suis inutile. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a du mal à ce moment-là à se détacher de ses pensées, ça tourne en rond.
Et certains organisent leur existence pour échapper à cette expérience pénible.
C'est ça, c'est une sorte de phobie. Hein. Il y a le fait de l'expérience d'être seul qui est une souffrance, et puis il y a les personnes finalement qui ont peur d'être seules et qui sont prêtes à tout faire pour ne pas être seules. Et souvent en période de fête, on voit bien qu'il y a des personnes, il vaut mieux finalement peut-être organiser une soirée où on est seul, mais avec des choses qui nous font plaisir, plutôt que pour ne pas être seul, aller à n'importe quel restaurant ou appeler une personne qu'on n'apprécie pas, par peur finalement de souffrir en passant une soirée seule.
Guillemette Audicino.
Est-ce que vous dites que la solitude, en fait, et là ça s'apprend pas trop, mais est-ce que dans l'enfance, est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont quand même un tout petit peu plus aptes? Par exemple, je sais pas, mais bêtement, est-ce que les enfants uniques sont plus aptes à la solitude parce qu'ils ont appris à s'occuper, à rêvasser, à combler le temps? Ou est-ce que non, la solitude, ça frappe comme ça La peine de la solitude frappe n'importe qui, même quand on a vécu à très nombreux, par exemple.
C'est vrai que les personnes, a priori, qui ont vécu seules devraient être plus armées pour gérer la solitude. Mais c'est pas si simple que ça. En fait, ce qui est important, c'est dans l'enfance, c'est d'avoir eu en même temps l'expérience de la solitude, en même temps que cette expérience n'ait pas été trop angoissante.
Bien sûr.
Donc, c'est-à-dire que si les parents sont très occupés et qu'ils ne s'intéressent pas à l'enfant, s'il est seul, c'est une catastrophe. Et à ce moment-là, il vaut mieux les frères et sœurs avec qui on peut jouer. Maintenant, si on a toujours été en sens inverse, dans une famille très protégée, avec que des liens très proches, le jour où on est seul, c'est bien compliqué parce qu'on n'a pas vécu cette expérience-là.
Christine Appel-Edouard.
Mais la solitude, l'angoisse de solitude, c'est à la fois aussi un sentiment très archaïque. C'est même peut-être le premier sentiment. Les bébés sont livrés absolument sans défense. Donc s'ils sont seuls, c'est une question de survie. Donc il y a une angoisse très très vitale. Hein. Et puis, par ailleurs, peut-être qu'il y a de ça aussi dans cette angoisse qui nous rejoint, qui nous rattrape quand on est plus âgé. Le fait d'être seul, c'est aussi peut-être perçu comme un danger fondamental.
Pas forcément, parce que vous avez entièrement raison, pour les enfants, c'est vital. Oui. Et c'est pour ça que c'est important que les parents soient là et finalement protègent l'enfant de ces expériences qui peuvent être traumatisantes et laisser les traces après. En revanche, notre aperçu, c'est que les personnes âgées souffrent moins de la solitude même que les adolescents.
Jean-Louis Fournier.
Oui, absolument. Moi qui suis une personne âgée, je souffre moins de la solitude. Cela dit, si vous voulez, je pense très important, comment dire, de ne pas être seul, parce que j'ai l'impression que quand on est toujours seul, on a l'impression qu'on a toujours raison. Et ça, c'est vachement important, ça. Et quand on commence à penser qu'on a toujours raison, ben, on commence à avoir toujours tort. Et que moi, j'ai beaucoup besoin des autres, justement, pour me dire, tiens, c'est bien ce que t'as fait, c'est moche, c'est pas bien. J'ai besoin, c'est forcé. Sinon, quand on est tout seul, on n'invente rien tout seul. On radote. On devient un vieux radoteur qui raconte sa guerre éternellement à des gens qui n'ont pas envie de la connaître. Et ça, je crois que c'est excessivement important. La vigilance que les autres vous donnent. Le sens critique. Parce que quand on a des idées comme ça tout seul, ce sont des nébuleuses, elles se sont pas incarnées dans des mots, et donc on a l'impression que c'est des idées géniales. Et le jour où on doit les exposer, les idées, là c'est l'épreuve de vérité. Quand il faut leur mettre des mots et qu'elles s'incarnent, tout d'un coup, il y a des gens qui disent « mais dis donc, elle est complètement con, ton nom. » Et on est obligé de se rendre compte que, eh ben heureusement que les autres étaient là, sinon on continuait à traîner des, comme ça des nébuleuses de pensées qui n'étaient pas utiles.
Allez, n'hésitez pas à échanger ce matin, à vous entraider sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexa Rivière, Claire Destacan et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. Elton John et Kiki Dee interprété Don't Go Breaking My Heart.
Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir.
Grand bien vous fasse.
Eh bien non, monsieur. Justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à la solitude subie pendant les fêtes de fin d'année.
Ça, c'est sûr, quand on est tout seul, on est peinard. Peut-être même le seul avantage, d'ailleurs. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier, oui. Moi, je vois, si je suis seul, à compter que je sois seul, j'ai compté, je suis seul. Eh bien, si je suis seul, c'est un choix. Ah non, c'est un choix. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Moi, on m'aurait dit, tu vas vivre seul toute ta vie, je demande tout de suite où est le gaz. Hein. Donc, enfin, là, c'est pas le cas. Moi, j'ai choisi la solitude. Et quand je dis que j'ai choisi la solitude, je pourrais aussi dire que j'ai choisi la liberté. De choix. D'être seul. Ben oui, ben je fais comme je veux, je ne demande rien à personne. Et personne ne me demande rien. C'est pas faux non plus. Non, mais enfin, je préfère vivre seul que mal accompagné. Voilà. Comment ? Bien accompagné. Oui, c'est autre chose, non, mais... Franchement, si c'est pour sortir, rencontrer des gens qu'on connaît même pas, moi, je préfère rester chez moi, toute seule, devant ma télé, avec mon petit plateau. Être seul ou à deux, c'est pareil. Enfin, ça ne change pas les choses, ça n'a pas de rapport. Comment vous dire ? Un truc qui est beau, il est beau. C'est vrai, on ne regarde pas avec les yeux de l'autre. Moi, je vois, hier, je suis allé voir une exposition... Toute seule, comme une grande. Bon, ben, qu'est-ce que je me suis fait chier? J'ai peut-être pas pris un bon exemple.
Jean-Luc Fournier, je rappelle que vous publiez « Je ne suis pas seul à être seul ». Il vous parle, ce sketch de Muriel Robin?
Je trouve ça formidable. Notamment quand elle parle des expositions. Récemment, j'ai été au musée d'Orsay pour l'exposition de Berthe Morisot et je n'ai pas vu un tableau. Parce que j'ai vu les dos des gens qui photographiaient les tableaux. Il y avait une espèce de monde fou. Et là, je peux vous dire que j'aurais aimé être seul.
Alors, vous êtes seul à Noël, souvent, au Nouvel An. Vous évitez de trop vous poser la question suivante. Pourquoi on ne m'invite jamais ?
Enfin, non, mais j'en rajoute un peu quand même. Pour écrire un livre, il faut que ce soit un peu croustillant. Donc, je suis un petit peu obligé de caricaturer ma vie. Ma vie n'est pas intolérable. Je souhaite à tout le monde de la vivre.
Et tout de même.
J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de... Comme ça, mais bon, par moments, c'est vrai que... Puis je suis très compliqué. Moi, quand je suis avec quelqu'un, j'ai envie d'être tout seul. Quand je suis tout seul, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Donc, c'est pas très soluble.
Gérard Macron, je rappelle que vous êtes psychiatre.
Je pense que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Hein.
Qu'est-ce que ça vous dit, ce que vient de... nous raconter Jean-Luc Fournier.
Bah finalement, il s'organise bien, j'ai l'impression.
Cette envie d'être seul quand il est entouré et cette envie des autres quand il est seul.
Oui, je pense que c'est un peu d'humour avec lui-même là qu'il a. Je pense qu'en même temps, c'est un peu vrai, mais en même temps, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est finalement, j'ai l'impression, je sais pas dans votre tête, mais ce que vous dites, c'est qu'un, vous réalisez qu'on n'a qu'un besoin de l'autre pour interagir, s'interroger et puis évoluer. Et en même temps, l'autre peut parfois être très pesant. Parce que on a aussi parfois envie d'être justement.
Ça me rappelle la parabole des hérissons de Schopenhauer. Le hérisson, quand il a froid, il a besoin de se rapprocher, mais jusqu'à un certain point, parce que sinon il y a les piquants qui font qu'on se blesse. Christine Appelé-Douelle, est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie un moment de solitude subi pendant les fêtes de fin d'année?
Ah oui, alors, un moment de solitude subi, oui, un lapin magnifique et sublime qui m'a été posé un 31 décembre. Et je me suis retrouvée comme une idiote au restaurant, toute seule au milieu de tous les gens qui étaient en train de festoyer, et j'attendais en vain. Voilà.
Comment on vit ce regard des autres, justement?
Eh bien, je suis partie, vous savez, j'ai le regard... En fait, ça m'énervait profondément de les voir rigoler, boire du champagne. J'ai bu du champagne quand même, et puis je suis partie, voilà, c'était insupportable. Je préférais en effet être toute seule chez moi que toute seule au milieu d'un tas de gens qui étaient en général à deux ou plusieurs et qui rigolaient comme des fous. Là, c'était pas drôle, il y avait personne avec qui jouer au ping-pong, quoi, avec qui rigoler. J'aurais pu vous inviter, Jean-Louis Fournier, on aurait au moins un peu rigolé.
Guillemette Odissino.
Être seul avec d'autres seuls, c'est agréable. Ce qui est terrible, c'est d'être seul au milieu de gens qui sont pas seuls.
Voilà,
ça, ils sont agaçants, les gens.
Ouais. Mais peut-être que vous êtes seul aussi, peut-être de temps en temps, parce que vous avez mauvais caractère. Non, vous êtes un peu grognon sur les bord de temps en temps.
Très grognon, je suis pas très facile à vivre.
Oui, mais quand vous dites être seul au milieu de gens qui sont pas seuls, mais finalement on ne sait pas si eux-mêmes dans leur tête ne se sentent pas seuls aussi. Finalement, peut-être que toutes ces grandes multitudes ne sont que des solitaires collés les uns aux autres.
Il y a beaucoup là dans notre époque qui fait semblant où tout le monde communique, tout le monde est connecté et tout ça.
Et particulièrement dans les soirées du 31, C'est vrai que sans pour autant qu'on nous pose des lapins, il y a des moments où on se retrouve très très seul. On a envie de quitter les soirées tôt. C'est fou souvent.
Là, j'ai assisté récemment, je le raconte, une anecdote. J'habite dans le 20e, quartier assez populaire, et c'était la veille du Nouvel An. C'était le jour du Nouvel An. Il y avait une petite dame très modeste qui achetait une tranche de jambon chez le boucher, et elle demande au le boucher, elle dit 100 grammes. Et le boucher, il pèse, et il y a 120 grammes. Et puis, il lui dit, je laisse 120 grammes, un jour comme aujourd'hui, je laisse 120 grammes. Elle dit, oh ben oui. Et alors, à la fin, il part et il lui dit, bon réveillon. Et elle dit, ce sera calme. Et j'ai trouvé ça terrible, cette phrase. Et la bonne femme, elle achète une tranche de jambon et le mec, il lui dit, bon réveillon. Il a plein de savoir-vivre.
Gérard Macron, pourquoi nos sociétés ont-elles peur à ce point de la solitude? Pourquoi est-ce qu'elle effraie autant la solitude?
Déjà, je crois que culturellement, c'est vrai que c'est important dans toutes les sociétés de vivre en groupe, parce que l'être humain est un être grégaire qui échange, qui partage et qui vit en groupe. Donc celui qui est seul, il interroge, il inquiète. On parlait alors des solitudes dans le mot en anglais, il y a le mot solitude. Je sais plus à quelle époque, je crois que c'est au 16e siècle ou 17e siècle en France, on a créé les petites solitudes dans les châteaux, les bourgeois créaient ça, les nobles, et puis il y avait des nobles à l'époque qui créaient des petites solitudes où les gens pouvaient s'isoler. Mais c'était au tout début parce qu'on avait l'impression auparavant qu'être seul, c'était être. On pouvait ne pas être bien, délirer et être en lien avec le diable, en fait. Donc même les moines, à l'époque, n'étaient pas seuls. Ils devaient rester ensemble, communier ensemble, dormir ensemble, en fait. Donc la notion d'une solitude qui puisse être une recherche spirituelle, une confrontation à soi-même, est assez récente, en fait. Et donc jusqu'à présent, le modèle, c'était on vit en société, on se soutient, on est tous, on fait corps ensemble, en fait. Voilà.
C'est le 18e siècle qui a commencé à envisager comme une idée intéressante la solitude. C'est Rousseau.
Après les Lumières, ça veut dire à ce moment-là, peut-être.
Et puis c'est les romantiques aussi. Mais qui en ont fait quelque chose de poétique.
Les romantiques après, mais ça a commencé vraiment au 18e et puis ça s'est développé au 19e. Mais c'est Rousseau. Le parangon, c'est vraiment Rousseau. Les rêveries du promeneur solitaire. Voilà, c'est le solitaire tout seul sur son rocher et qui réfléchit.
C'est mal vu. C'est très mal vu. Parce que quand vous entrez dans un restaurant ou dans un hôtel, et que vous dites combien vous êtes, et vous dites tout seul, le mec il fait la gueule, parce qu'il se dit, tiens, cette table-là, j'aurais pu en mettre quatre, je vais devoir changer les draps pour un seul, c'est pas bien d'être seul. Les gens seuls, parfois, on les invite pas non plus, parce que les femmes seules, on les invite
pas. Les femmes seules, davantage.
Très rarement, les femmes seules.
Oui.
Mais ça, c'est parce que les légitimes ont peur
mais bien sûr.
Qu'elles fassent du gringue à leur conjoint, et que le conjoint, il...
Et Jean-Luc Fournier, nos sociétés se méfient des gens seuls parce qu'il y a forcément une raison, une mauvaise raison à cette solitude.
Ben, on se dit s'ils sont seuls, c'est qu'ils sont peut-être pas très agréables à fréquenter.
Gérard Macron.
On imagine qu'il y a des raisons, effectivement, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme nous un monde qui est un peu plus individualiste quand même, quelque part, et que le bonheur appartient un peu à chacun, on peut mieux concevoir que les personnes soient seules qu'auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne, une femme, je sais pas, qui a 30 ans et célibataire et qui a envie de profiter de la vie, ne va pas être stigmatisée. C'était pas le cas il y a une trentaine d'années, par exemple.
À partir de quand la solitude devient-elle chronique? Et pour quelles grandes raisons s'installe-t-elle dans le temps, cette solitude?
Alors l'idée, voilà, c'est très important de souligner ça. En fait, au-delà de la solitude subie et choisie, il faut bien repérer au niveau du temps ce qu'on appelle la solitude qui est plutôt temporaire et qui est consécutive à des changements environnementaux. Un déménagement, un deuil, une rupture professionnelle. Et à ce moment-là, voilà, un divorce. Il y a donc un moment, la personne va falloir qu'elle se réorganise, qu'elle fasse le deuil de ce qu'elle avait avant et qu'elle se réorganise. Pendant ce temps-là, elle peut être seule. Et puis en général, elle va corriger, puis petit à petit, elle va retrouver son tissu relationnel, ses habitudes. Et puis il y a les personnes qui ont ce sentiment tout le temps. C'est-à-dire en permanence, accompagnées, pas accompagnées, mariées, seules au travail, elles ont un sentiment de solitude intérieure. Et ça fait référence, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui, dans leur enfance, ont eu des carences affectives, en fait. Donc, comme dans leur enfance, les parents n'ont pas été assez présents, assez aimants, ou bien eu un traumatisme dans l'enfance, ces personnes au fur et à mesure de leur vie, traînent ça, en fait. Et surtout, le problème, c'est qu'elles mettent en place des stratégies qui ne leur permettent pas de sortir de la solitude. Notamment la rumination, s'allonger sur un lit, imaginer que les choses iraient mieux. Ça, c'est une première mauvaise stratégie. Et elles ont aussi un regard critique sur les autres. Les autres sont égoïstes, les autres n'iront pas vers moi, les autres ne font pas attention à moi. Donc, elles ne vont pas aller vers l'autre. Et les autres, évidemment, ne vont pas penser aller vers ces personnes-là qui sont un petit peu solitaires, pas très agréables, en fait.
Quelles sont les caractéristiques de l'expérience de solitude ?
Il y a la nature de la situation, est-ce qu'elle est subie ou choisie ? Ensuite, le mode de survenue, est-ce qu'il est brutal ou progressif ? Ensuite, il y a la durée de l'expérience, est-ce qu'elle est limitée ou indéterminée ? Ensuite, il y a l'importance des conséquences. Par exemple, on peut imaginer que parfois être seul dans certaines situations peut avoir des conséquences graves. Et puis dans d'autres, finalement, c'est pas si inquiétant que ça. Ensuite, il y a la nature des modifications relationnelles, notamment est-ce que c'est les modifications quantitatives ou qualitatives. On s'aperçoit que les personnes qui souffrent de solitude, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas assez de relations qualitativement de bonne qualité, non pas la quantité. Voilà. Mmh. Et pour autant, les personnes qui sont timides, par exemple, ont très peu de relations et donc ont intérêt à avoir des relations qualitative d'excellente qualité, parce qu'au fil du temps, comme ils n'entretiennent pas de nouvelles relations, les relations vont s'épuiser, vont disparaître petit à petit, parce que les gens déménagent, partent, ou même décèdent éventuellement. Et petit à petit, ils ont 2-3 personnes, amis intimes, ils ont intérêt à ce que ces relations fonctionnent très très bien, sinon ils sont très vite seuls. Donc il y a le côté qualitatif et quantitatif. Et puis il y a aussi les moyens d'action mis en place, notamment quelle stratégie la personne va mettre en place pour gérer sa solitude. Et on voit qu'il y a des stratégies qui sont plutôt positives, qui vont permettre d'avancer, rencontrer du monde, s'organiser, planifier ses journées. Et puis des stratégies qui sont complètement négatives, qui sont le repli sur soi, la rêverie, culpabiliser, projeter sur les autres les malheurs que l'on vit, des choses comme ça.
Jean-Luc Fournier, vous aimiez être seul quand vous étiez enfant. Vous racontez une anecdote dans votre livre. À 10 ans, vous bravez les interdits pour vous retrouver seul. Vous nagez longtemps, loin du bord, avec l'envie de traverser la Manche en solitaire.
J'ai acheté des cravenes et une cravate écossaise. Mais oui, j'aimais bien être seul parce qu'en même temps, j'étais un petit orgueilleux et je voulais toujours être le premier. Je voulais être le premier, et le premier, il est seul en général. Quand on allait faire une ascension dans la montagne, je voulais arriver le premier. Je voulais tout être un premier, c'est souvent seul. Et donc, mais en même temps, c'est très ambigu, si vous voulez. J'aimais être seul, mais j'aimais bien aussi. J'avais peur quand j'étais seul.
Alors, vous avez recherché la solitude tout au long de votre vie par goût de la liberté. Dire non pour se séparer des autres. La solitude, c'est la rançon de la liberté. Vous citez d'ailleurs Descartes qui dit « Je pense, donc je suis », et vous vous dites « Je suis seul, donc je pense ».
Ben, j'ai l'impression, si vous voulez, que le brouhaha des autres n'est pas forcément quelque chose de propice à la réflexion. Je pense que quand on est seul, on peut peut-être plus réfléchir. Quand on est dans un groupe d'où j'ai de parler, alors quand on parle, on essaie de plaire aux autres, on essaie de les faire rire, on essaie de leur dire « je suis bien placé pour vous le dire ». Et donc, on ne dit pas forcément la vérité. Mais à soi, on ne peut pas se raconter de blagues. On est en face de soi, on peut pas se bluffer soi-même. Donc c'est important aussi de moi, si vous voulez, moi en faisant ce bouquin, je suis écartelé entre deux choses. Qu'est-ce que je préfère finalement? Est-ce que je préfère être seul ou est-ce que je préfère quelqu'un?
Qu'est-ce que vous préférez?
Ça dépend. Ça dépend d'autrui.
Merci d'être venu.
Ça dépend de celui à qui je suis.
C'est alternatif. Dans la vie, on traverse tous des moments où on a envie et besoin d'être seul, et des moments où on a absolument besoin d'être en lien avec les autres. L'écriture, c'est un exemple formidable, la création d'une manière générale. Pour écrire, je pense que c'est vrai pour vous et c'est vrai pour beaucoup d'autres écrivains. Écrire. Alors, il y a des gens qui aiment bien écrire au milieu de la foule, mais c'est dans une espèce d'isolement. Mais l'écriture est un exercice extrêmement solitaire.
Moi, j'ai fait un film sur
très solitaire.
Françoise Malé-Joris, par exemple, et je me souviens qu'elle allait dans les bistrots.
Oui.
Pour entendre le brouhaha du monde, pour écrire.
Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à échanger ce matin, à vous entraider sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse.
À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdue. J'aurais dû presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face.
Souchon interprété presque.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et on s'intéresse ce matin à la solitude subie pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an notamment.
Je suis seule ce soir avec ma peine.
Mieux vaut se tromper tout seul qu'avoir raison avec les autres, disait le poète anarchiste. Peut-être. Il n'empêche que la solitude est lourde au cœur de l'homme en ce siècle glacé. Oh, bien sûr, pour tromper sa solitude, on peut toujours essayer ça.
À la tienne, chérie.
Mais le miroir reste de glace. Il ne répond pas alors que seule la chaleur de la voix humaine peut apporter le réconfort au malheureux solitaire.
Ici Poli, j'écoute.
Bonjour monsieur, ça va bien?
Ici Poli, j'écoute.
Vous avez beau temps? Étonnant, non?
Clin d'œil à la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède de Pierre Desproges, réalisé par Jean-Luc Fournier. Jean-Luc Fournier, je rappelle que vous publiez Je ne suis pas seul à être seul. Alors vous avez besoin des autres, hein, mais les autres vous étouffent également, dans le métro à 18h, dans les bouchons, au supermarché, au Mont-Saint-Michel, au musée du Louvre. Alors souvent vous préférez le silence de la solitude au vacarme de la multitude, la fraîcheur apaisante de la solitude à la chaleur étouffante de la multitude, c'est ce que vous écrivez. Alors vous fuyez la multitude, mais vous éprouvez la nostalgie de quand vous étiez deux avec votre femme Sylvie, aujourd'hui disparue. Et je vais demander à Guimet Odissino de nous lire ce beau passage de votre livre. Vous racontez cette nostalgie. Guimet Odissino.
Quand j'étais deux, je pouvais acheter un poulet entier. Quand j'étais deux, je pouvais commander une bouteille de vin, pas deux demi. Quand j'étais deux, je pouvais parler du vin qu'on venait de boire et du film qu'on venait de voir. Quand j'étais deux, je pouvais prendre deux places au cinéma. Quand j'étais deux, je pouvais faire du tandem. Quand j'étais deux, devant un tableau de Vermeer, je pouvais dire « c'est beau, hein ?» Quand j'étais deux dans ma voiture, la place du mort n'était pas vide. Quand j'étais deux, que j'accrochais un tableau, il y avait quelqu'un pour me dire s'il était droit. Quand j'étais deux, je regardais moins la télévision. Quand j'étais deux, j'avais moins peur le soir et moins froid la nuit. Cela dit, je n'avais plus toute la place dans le lit et je me faisais engueuler si je ronflais.
Jean-Louis Fournier.
Oui, c'est l'ambiguïté. C'est vrai que c'est bien d'être... C'est difficile de, peut-être d'être seul, mais c'est difficile d'être à deux aussi. C'est, de toute façon, c'est toujours compliqué de vivre. C'est difficile, mais c'est passionnant. Moi, c'est ce que j'ai mis sur la tombe de ma femme, enfin, qui est la mienne, ma résidence tertiaire au Père-Lachaise, où j'ai déjà mis mon nom. Et j'ai mis une petite phrase, j'ai mis « Finalement, nous ne regretterons pas d'être venus ». Et c'est, beaucoup de gens viennent la photographier, parce que, en général, tous les textes sont des textes un peu mortifères et tristes et tout ça, ça au moins. C'est... Et c'est vrai, moi, finalement, je serais content d'être venu, pour rencontrer des autres qui étaient plutôt sympathiques.
Mais est-ce que la solitude, elle est plus difficile, parce que vous avez, à l'évidence, perdu vraiment quelqu'un qui était important et qui était fondamental dans votre vie, que vous aimiez, ou est-ce qu'elle est moins difficile parce que vous avez connu cette femme-là?
Ah, question très essentielle, sur laquelle c'est difficile de réfléchir tout de suite. Je pense qu'il y a une chose qui est extraordinaire, ce sont les souvenirs. Je crois que la vie imaginative et les souvenirs, c'est des choses extraordinaires. Et avoir des beaux souvenirs, je peux vous dire que ça peut, ça remplace beaucoup de choses. Ce qui doit être terrible, c'est de ne pas avoir de bons souvenirs. Un mec qui meurt, il n'a aucun bon souvenir. Ça doit être terrible, ça. Moi, j'ai plein de bons souvenirs. Et ça, c'est bien.
Gérard Macron, je rappelle que vous êtes psychiatre, auteur de Psychologie de la solitude. Quel conseil pourriez-vous délivrer à nos auditeurs qui se sentent seuls, qui subissent une solitude en cette période de fête? Quel plan d'action peut-on mettre en œuvre pour sortir de l'isolement, de la solitude subie?
Déjà, il faut s'organiser un petit peu. Donc là, on est le 30, c'est un petit peu limite, mais bon, l'idée c'est de s'organiser, d'anticiper, pour pas qu'il y ait de rupture brutale. Donc là, pour prochainement, là pour ce soir et les jours qui viennent, le lendemain, là, ce qui vient, la personne devrait, je conseillerais aux personnes de réfléchir déjà à ce qu'elles veulent. Est-ce qu'elles veulent finalement voir du monde? Est-ce qu'elles n'ont pas envie? Et qu'est-ce qu'elles en attendent? Déjà commencer à réfléchir. Deuxièmement, si elles n'ont pas forcément envie de voir du monde, mais c'est parce que c'est un peu obligatoire de le faire, peut-être mieux qu'elles réfléchissent à passer une soirée qui leur convienne autour d'un film qu'elles ont choisi, faire un bon petit repas, se faire un petit cadeau, enfin faire des choses qu'elles n'ont pas forcément le temps de faire, par exemple. Voyez, si maintenant, là, ça peut être aussi l'occasion par Skype, par FaceTime, de joindre des personnes qui sont loin, éventuellement, c'est possible. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui permettent de joindre des personnes à qui on tient et qui ne sont pas forcément proches de nous. Si la personne maintenant souffre vraiment de solitude, c'est-à-dire dans le sens que d'être seul à la maison, c'est une angoisse insupportable. Il existe maintenant quand même des endroits, des associations, des restaurants qui organisent quand même pour le réveillon des soirées où l'idée c'est pas de se faire des grandes amitiés, découvrir des personnes forcément extrêmement intéressantes avec qui les liens vont être très forts. C'est juste d'être un peu léger ce soir et d'oublier un peu faire une parenthèse, dire tiens ce soir je m'amuse un petit peu et je vis l'instant pour ce qu'il est. Voilà.
Et comment maintenir une haute estime de soi pendant ces moments de solitude subie?
Alors, je ne sais pas si on peut forcément avoir comme ambition d'avoir une haute estime de soi.
Une bonne estime de soi, en tout cas.
L'idée, c'est de prendre conscience que les pensées que l'on a ne sont pas forcément justes. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de quand on est seul, finalement, on peut réfléchir. C'est vrai. Mais encore, faut-il être libéré au niveau des pensées. Si on a des pensées qui nous tourmentent, de souffrance, de dépréciation de soi, la solitude, être seul, c'est encore pire, en fait. Hein? Donc, donc en fait, dans l'interaction avec l'autre, je suis d'accord avec vous, il y a un échange, puis parfois il peut être pesant, mais quand on est dans l'interaction avec soi-même, et que ce soi-même est lourd, c'est aussi très pesant. Donc par rapport à ça, il faut que la personne prenne conscience que les pensées ne sont que des faits psychiques sur les pensées. Elles ne traduisent en aucun cas la réalité.
Est-ce que ça peut aider de vraiment, pour la personne qui va rester chez elle, de ritualiser exactement comme si c'était un réveillon à plusieurs? C'est-à-dire de vraiment d'aller faire ses courses, de réfléchir à son plat préféré, s'organiser un petit truc, à parler avec les commerçants, à discuter. Alors, pas la vieille dame avec la tranche de jambon, hein, mais justement, enfin, d'échanger sur, voilà, qu'est-ce que vous avez de meilleur ce soir, qu'est-ce que je pourrais prendre et tout, de choisir un divertissement, mais que même avant, dans les heures qui précèdent, de mettre en place, de mettre en scène sa soirée, peut-être pour oublier, ouais. Oublier justement les mauvaises pensées, quoi.
Bah, surtout aussi pour prendre soin de soi.
Oui.
Vous avez raison. Oui. Il y a une continuité, on s'organise.
On est son propre invité, disons.
Oui, savoir se faire plaisir.
Oui.
Et ça, c'est peut-être une chose qu'on doit apprendre, peut-être, à savoir se faire plaisir. Parce que c'est pas forcément de l'égoïsme, parce qu'on parle toujours, c'est de l'égoïsme et tout ça. Mais c'est vachement important d'être heureux. Et moi, je crois que les êtres humains, ils ont un devoir, c'est d'être heureux. Et c'est vachement difficile d'être heureux. Et on peut pas reprocher à des gens qui font tout pour être heureux. Et ceux qui réussissent à être heureux, eh ben, bravo. Parce que c'est vachement difficile d'être heureux.
Jean-Luc Fournier, il y a un lieu où vous ne vous sentez jamais seul, c'est dans une bibliothèque.
Ah ben, si vous voulez, oui, l'exemple. Pour moi, je pense que la culture et les moyens techniques qui sont mis maintenant à notre disposition, qui nous permettent d'aimer 24 heures sur 24, de pouvoir écouter Mozart, c'est quand même extraordinaire. Tous ces gens-là sont à disposition dans les livres de poche et tout ça. C'est plus simple d'avoir Mozart à n'importe quelle heure qu'un plombier, par exemple. Le plombier n'est jamais libre. Mozart est toujours libre. 24 heures sur 24. Et puis tous les bouquins, tous les mecs qui nous ont écrit, on peut pas être seul. Ça, c'est extraordinaire. La culture, c'est un truc formidable. De toute façon, les bienfaiteurs de l'humanité, ce sont les artistes.
Oui.
Ce sont pas d'autres. Ce sont les artistes.
Tiens, Christy Lapelle-Edouelle, les livres restent un refuge de choix quand on subit la solitude. Vous nous conseillez quelques livres ce matin?
Oui, alors c'est même plus qu'un refuge, je pense que c'est une ressource, hein, et que ça permet de s'enrichir, de s'évader, de voir le monde à travers les pages. Alors oui, j'en ai quelques-uns, je vous les donne comme ça en vrac, mais qui parlent tous. Alors je me suis centrée sur le thème de la solitude, donc il y en a un que je trouve formidable, qui est un petit livre qui s'appelle « Ma cabane ». En plus, j'ai une tendresse particulière pour les cabanes que j'aime beaucoup, d'un jeune homme qui s'appelle Olivier Garance, c'est à l'Iconoclaste. Il a écrit ça avec une jeune femme qui s'appelle Delphine Sambabert. Et ce petit texte n'est pas très long. Ce jeune homme raconte qu'il a trouvé, il est originaire des Pyrénées, et en se promenant, il a repéré une cabane dans la montagne. Et il est tombé littéralement amoureux de cette cabane. Et cette cabane est devenue un refuge où il est allé très souvent et faire des séjours plus ou moins prolongés de solitude. Il allait faire des bains de solitude, en quelque sorte. Et ça lui a permis, parce qu'il a traversé des moments difficiles, de reprendre pied, justement de se retrouver dans cette solitude qui n'en était pas vraiment une, parce qu'elle était en effet choisie, que non seulement elle était choisie, mais qu'en plus c'était dans un endroit absolument magnifique, ce qui compte aussi beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'on se sent beaucoup plus seul si on est dans un endroit triste et moche que si on se trouve dans un endroit absolument sublime. C'est sont deux choses incomparables. Et puis vous en voulez un autre?
En Patagonie, de Bruce Chatwin.
Ah ben oui, alors En Patagonie, ça c'est
au livre de poche.
Livre de poche, c'est aussi la solitude absolument choisie, et non seulement choisie, mais la solitude pour aller voyager et marcher seul. Et donc il traverse, Bruce Chatwin, c'est cet auteur anglais magnifique, écrivain voyageur, il marche à travers la Patagonie, donc non seulement il marche seul, mais il marche seul à l'autre bout du monde, dans des solitudes totales. Et là, justement, ce qu'il se passe, c'est qu'il rencontre des tas de gens tout à fait extraordinaires. Et je pense en particulier au couple de vieilles dames qui sont restés très chics et qui vivent en Patagonie. Il les croise et il prend le thé avec eux. Il raconte ça. C'est un passage merveilleux. La Patagonie, c'est...
Et puis, les solitaires peuvent se venger en lisant 150 idées pour emmerder le monde.
Alors,
de
moi,
Laurent Gollet, chez First.
J'ai pensé à Jean-Louis Fournier, parce que ça, je suis sûre que c'est un livre qui devrait vous plaire. C'est 150 idées. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, il faut pas exagérer. Puis c'est des blagues. C'est des blagues de potage de 10 ans. Mais il y en a quelques-unes que je trouve vraiment très bien. Je suis sûre que ça va vous plaire.
Comment s'appelle le titre?
Ah, voilà, j'en étais sûre. 150 idées pour emmerder le monde. Déjà, c'est un titre qui vous plaît.
Le monde, hein,
voilà.
Toujours...
Et alors, il y a une idée que vous allez bien aimer, c'est de monter dans un métro bondé, hein, une heure de pointe ou un moment difficile, avec un cactus, mais pas un petit cactus, un grand cactus.
Oui, ça, c'est une bonne idée.
Ah, c'est une bonne idée, vous êtes d'accord. Mais moi, j'en ajoute une, hein, monter dans un métro bondé et ouvrir un sandwich au camembert. Qu'est-ce que vous en dites?
Bien coulant. Guillemette Odissino, on mettra sur la page Facebook et sur l'appli France Inter le titre des livres que vous avez choisi, Christy Lapelle-Edouelle. Guillemette Odissino, pour le soir de la Saint-Sylvestre, un capra.
Ah, allez, oui, un capra.
Qui met du baume au cœur.
Voilà, mais pas toujours le même, hein, parce que l'histoire de l'ange qui cherche ses ailes et qui va sauver James Stewart, bon,
certes, la vie est belle.
La vie est belle.
Mais pas, c'est pas celui-là que j'ai choisi.
Eh ben non, c'est pas La vie est belle. Voyez déjà, vous êtes seul, vous êtes original. Vous allez regarder un autre Frank Capra et vous ne l'emporterez pas avec vous. Moi, je le trouve encore plus drôle, encore plus rempli de bienfaits. Ben, James Stewart est le fils d'un marchand d'armes. Absolument. Égoïste, méchant, qui veut ne faire que du fric. Et il tombe amoureux d'une jeune fille qui, elle, est la petite fille d'une famille d'hurluberlu, absolument dingue, dont le grand-père est incarné par Lionel Barrymore. Une famille où on recueille les gens qui sont un peu seuls, mais qui ont des idées, qui bricolent, etc. C'est l'opposition, évidemment, de deux philosophies de vie, avec des scènes absolument délicieuses au sein de cette famille de frappadingues, où, par exemple, la fille de famille est persuadée qu'elle va devenir ballerine, alors qu'elle a déjà 35 ans, et fait donc des entrechats dans le salon, pendant que quelqu'un construit des petites marionnettes en forme de lapin, pendant que quelqu'un d'autre dans la famille fait des feux d'artifice, quitte à faire exploser la cave. Et, à votre avis, entre les hurluberlus et la famille de marchands d'armes, qui va avoir le dessus? On est chez Fonte Capra, on est en 1938, donc la question ne se pose même pas. C'est absolument délicieux. Ça vous met un baume au cœur, et ça vous dit que l'humanité est pleine de ressources, qu'on soit seul ou en groupe. C'est absolument merveilleux.
Rappelez le titre.
Vous ne l'emporterez pas avec vous.
Et pour ceux qui ont la chance d'être abonnés à OCS, une série qui donne envie de ne pas passer des fêtes en famille, c'est la série américaine Succession, disponible également en DVD.
Oui, c'est aussi disponible en DVD, donc c'est sur OCS, parce que ça arrive de HBO, donc toujours ces séries absolument épatantes de HBO. Succession. Alors, imaginez que ce soit à peu près là, comme une famille de Rupert Murdoch, vous voyez, le grand mania des médias aux États-Unis. Imaginez que ce type-là, ô combien sympathique, donc en fait un enfoiré de la plus belle eau, a trois enfants, tous aussi déjantés les uns que les autres, désaxés, et il est question que l'empire, cet empire médiatique, finalement, passe à l'un des enfants. Mais il y a aussi le reste des médias, il y a Internet, il y a cette Amérique qui devient dingue, il y a comment aujourd'hui l'information est traitée aux États-Unis. C'est la série, je pense, la plus méchante que j'ai vue depuis l'invention des séries. Le rôle du patriarche est incarné par Brian Cox, un acteur américain extraordinaire. On dit tout le temps que les séries sont shakespeariennes, hein, maintenant même Candy c'est shakespearien. Là, c'est vraiment shakespearien. Vous allez vous régaler et ne plus avoir envie d'avoir une famille du tout.
Allez, n'hésitez pas, ça s'appelle Succession.
Donc. Succession.
Allez, n'hésitez pas à échanger ce matin, à vous entraider sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. I had to think about my oldest friends. Now I no longer hang with them. And I can't wait to be home again. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. If I get my shit together this year, maybe I'll be a 10. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions. 1 year on and I still can't focus. I did it again. Inviting people round to stay and always owning up to things. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. If so, I've been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain, give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turned superhero. Took all my strength to carry on. And though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. Sans doute ma chanson préférée en 2019, Rex Orange County, interprété Ten Ten.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alors, si on craint de passer ses fêtes seules en cette fin d'année, on peut peut-être taper chez ses voisins, ou si on est un voisin bien intentionné, on peut peut-être repérer dans son immeuble, dans son quartier, des personnes qui sont seules et les inviter le soir de la Saint-Sylvestre, Jean-Luc Fournier.
Ça dépend de quel voisin.
Parce que c'est vrai, vos voisins, là, dans votre livre, ils ont toujours les volets fermés, ils sont pas très sympas. Hein.
Les volets sont constamment fermés. Et pour moi, une maison, c'est un peu un visage. Et les fenêtres, ce sont des yeux. Et j'ai l'impression de vivre dans un monde... Et je les engueule, d'ailleurs, parce qu'ils ferment toujours leurs volets.
Plus sérieusement, Gérard Macron.
Oui, c'est une très bonne idée. D'abord, il y a les personnes seules. Il faut qu'elles accèdent un petit peu proactives. Donc, d'aller vers l'autre. Et celles qui ne le sont pas, de penser aussi à ceux qui sont seuls et de créer un peu des liens, effectivement, sociaux et affectifs, parce que je pense que c'est quand même important, notamment le soir des fêtes.
Moi, ma grand-mère, elle laissait souvent une assiette en plus pour une personne seule qui viendrait à l'improviste à la maison, Guillemette Odissino.
Oui, puis de manière un peu cynique, si on invite le voisin qui est tout seul, au moins, il râlera pas pour le tapage nocturne.
Enfin, un tapage nocturne tout seul, c'est une bonne idée, on peut faire un tapage nocturne tout seul
oui,
pour
ça,
se
oui,
venger.
Oui.
Je trouve.
Il viendra faire la fête avec nous, éventuellement.
Gérard Macron, je rappelle donc, vous êtes psychiatre. Un dernier conseil, peut-être, pour ceux qui broieront peut-être du noir, avec des idées noires. On sait que les taux de suicide pendant les fêtes sont assez élevés.
Alors déjà, il y a des personnes qu'on peut appeler, hein, SOS Amitié, ou il y a d'autres associations, donc il faut se renseigner maintenant, pas attendre ce soir pour le faire.
Il faut surmonter sa honte de le faire.
Oui, tout à fait. Mmh. Les personnes sont là pour ça, on a le droit de souffrir, enfin, genre, c'est pas une honte de souffrir, et si on souffre, c'est que souvent, alors vous disiez que c'est difficile d'être heureux, finalement, hein, c'était compliqué, la vie est difficile, donc elle est difficile pour tout le monde, et il y en a qui sont moins armés que d'autres, et donc, faut pas avoir honte d'appeler des personnes, des professionnels qui sont là pour vous aider, hein, c'est vraiment important. Et puis, l'idée tout à l'heure vous aviez été excellente, c'est vrai, il y a quand même des gens autour de nous, souvent, des voisins qu'on ne voit pas, surtout en région parisienne, par exemple, qui pourtant, si on va vers eux, moi j'ai toujours été surpris par les Parisiens, moi je suis pas de Paris à la base, hein. En province, on discute assez facilement avec les autres, à Paris, les gens ne se voient pas, ils se croient sans se voir. Mais en revanche, quand on les aborde, ils sont quand même très sympathiques.
Tiens, d'ailleurs, on va terminer par une note un peu gaie. Comment vous appréhendez, Jean-Luc Fournier, l'idée de mourir seul ?
Ça, c'est, je crois que c'est une grande trouille qu'on a tous. Parce que on a l'impression... Bon, on part seul, en plus, on prend pas le même train souvent, hélas. Et... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore pire d'être tout seul. Et on dit souvent aux gens, quand il y a quelqu'un qui est en train de nous quitter pour l'au-delà, que c'est bien quand il voit des gens autour de lui. C'est comme quand on va prendre le train, c'est bien qu'il y ait des gens qui agitent des mouchoirs.
Un message peut-être, Jean-Luc Fournier, pour ceux qui passeront les fêtes seuls.
Ben, écoutez, je vais me faire de la pub. Je vais leur dire de lire mon livre qui s'appelle Je ne suis pas seul. Il est édité chez Lattès et c'est un petit joyau.
Merci beaucoup, Jean-Luc Fournier. Merci, Gérard Macron. Psychologie de la solitude est publiée en poche chez Odile Jacob. Merci, Chrissy Lapelle-Edouel et Guy Lemaitre. Odissine, je dis Guy Lemaitre comme Éric Libio.
Oui, j'aime bien cette façon de. C'est mon tic.
Allez,
enfin, mon tac.
Si vous vous sentez seul, vous pouvez échanger et partager sur la page Facebook de Grand Vous Fasse. Demain, on s'intéresse au plaisir d'aller au restaurant, seul ou à plusieurs.
Ah, c'est bien,
belle journée à l'écoute de France Inter. À la technique ce matin, Grégory Vallon.